Bonjour à chacun. Vous avez visionné l'extrait de spectacle du prestidigitateur américain David Copperfield. Je ne sais pas comment vous avez réagi en visionnant cela. Peut-être certains d'entre vous ont eu très peur et se sont dit par exemple que c'était satanique. C'est en tout cas une réaction que j'ai entendue. Je dirais plutôt de mon côté que c'est physique, au sens du monde physique, que c'est technique. David Copperfield ne prétend à aucun pouvoir, mais il prétend à faire de la prestidigitation et de la grande illusion. Alors avec des moyens en grand, avec des dispositifs techniques probablement complexes, coûteux, et sans doute aussi des heures et des heures de répétition pour donner une telle impression d'aisance, de fluidité. Alors conscient qu'à côté d'une vidéo, un texte peut paraître terne, et a fortiori si la vidéo fait rêver, mais tant pis. Conscient de ce décalage, je nous invite à écouter le récit de l'Ascension, qui a été fêté dans le calendrier il y a 3 jours. Le récit se trouve dans le livre des Actes, au premier chapitre du livre des Actes. Je lis à partir du verset 3. Après sa mort, Jésus se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Dans les versets 4 à 8, Jésus invite ses disciples à attendre la venue du Saint-Esprit et je continue la lecture à partir du verset 9. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes, vêtus de blanc, se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors essayez de vous imaginer la situation, et plutôt essayez de vous imaginer dans la situation. Parce que là, il n'y avait pas de fond bleu, il n'y avait pas de jolie musique, il n'y avait pas de rapace, et pourtant. Je me dis que lire une telle scène dans un texte ancien peut paraître bien étrange à un contemporain. On nous raconte quelqu'un qui parle et qui s'élève dans les airs. Et on peut se dire, c'est juste surréaliste. Et puis on pourrait même se dire, c'est quand même un peu ou beaucoup naïf. Vous croyez, vous, des choses comme ça ? Pourrait-on nous dire ? À moins, évidemment, de vivre l'expérience en direct. Et je dirais, à moins de vivre l'expérience en direct, à une époque où, contrairement à la nôtre, les êtres humains n'ont pas l'habitude de s'envoler. Alors vous me direz peut-être, oui, mais à la nôtre non plus, ils n'ont pas vraiment l'habitude. Mais je vous dirais que des êtres humains qui volent, qui sont arrachés à la pesanteur terrestre, c'est très commun. Il y a Copperfield, mais il y a tout simplement, tout bêtement, les avions. Mais la première fois que ça s'est produit dans l'histoire, en fait, c'était il y a peu de temps. C'était d'ailleurs à Annonay, en 1783, avec les frères Montgolfier. Donc mesurez combien c'est récent, c'est tout récent à l'échelle de l'histoire. Donc on ne peut qu'imaginer combien cela pouvait saisir les contemporains de Jésus. Ils l'avaient déjà vu faire des choses étonnantes, guérir des malades, marcher sur les eaux. Mais là, c'est inédit. Là, il n'y a pas de trucage. Jésus ne s'élève pas sur une scène qui est fermée, où donc on peut camoufler au-dessus des câbles. Il ne s'élève pas sur un beau fond bleu, sur un décor préfabriqué. Il ne s'élève pas vêtu d'une armature bien camouflée sous son gilet. Jésus est en plein air, au milieu d'un champ. Et Jésus s'élève. Et c'est un nuage qui le cache à la vue. C'est pas un plafond qui... Il ne s'élève pas jusqu'au plafond. C'est un plafond qui limite l'ascension. C'est un nuage qui le fait disparaître. Donc si nous avions été là, je pense que ça aurait été probablement très déroutant pour nous. Et a fortiori dans un monde où on ne voit nulle part des gens qui volent. Et si les disciples continuent à fixer le ciel et qu'il faut quelque part qu'ils soient ramenés sur terre, sur leur quotidien, c'est probablement parce qu'ils étaient comme sidérés par ce qui se passe. Quelque chose se passe qui ne se range pas dans les cases ordinaires. Ils voient Jésus s'affranchir de notre espace, s'affranchir des lois de l'apesanteur. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons y voir? Notre Père, qui es aux cieux. Pour parler de Dieu, pour faire naître en nous l'esquisse d'une image de l'endroit où il est, s'il est dans un endroit, lui qui remplit les cieux et la terre, nous dit par ailleurs le texte biblique, lui qui est présent jusqu'au séjour des morts, pour parler de l'endroit où est Dieu, la Bible emploie le langage du ciel. Et c'est là que Jésus, entre guillemets, va. C'est là que Jésus est. J'entends là simplement que Jésus me dépasse. Jésus nous dépasse. Avant la montgolfière, l'humain restait attaché à l'humus, à la terre. L'humain sent, l'humain sait, dans ses expressions religieuses les plus anciennes, que ce qui se rattache au divin est inaccessible et d'un autre ordre. Et c'est ce que vient dire ce vocabulaire tout simple du bas et du haut. Ce qui est en hauteur, c'est ce qui nous surplombe. Et c'est l'autorité qui est signifiée. Au travail, votre N plus 1 s'appelle aussi votre supérieur. On parle des gens qui sont haut placés. Et les trônes sont souvent placés en hauteur. Et parfois dans les églises, on va mettre la personne qui préside ou qui prêche en hauteur. Il préside et la prédication est parfois considérée comme symboliquement supérieure, le moment supérieur du culte. Pour bien voir et pour bien être vu, le chef, en tout cas, est souvent mis en hauteur. Le Dieu de la Bible, eh bien c'est le Très-Haut. Le Dieu Très-Haut ne se confond pas avec le monde. Le Dieu Très-Haut n'est pas du monde. Il n'habite pas ce monde. Jésus monte au ciel. Dieu est au ciel. Moi, toi qui m'écoutes, nous sommes sur terre. Et c'est à ce Jésus-là, c'est à ce Dieu-là que nous sommes rapportés, ce Dieu très haut. Et c'est quand j'ai cela en tête que je mesure combien il est bouleversant que Jésus nous invite à nous adresser à ce Dieu comme à notre Père, qui est dans dans les cieux. Dans la prière la plus quotidienne, le chrétien le plus frustre s'adresse à quelqu'un qui est dans les cieux, quelqu'un qui est supérieur et qui se dit notre Père, qui se veut notre Père. Qu'est-ce que ça fait de s'entendre invité par ce Dieu-là, de s'entendre convié par lui, de s'entendre appelé par lui au quotidien à s'adresser à lui ainsi. Alors je ne sais pas pour vous. Ce que je sais pour ce qui me concerne, c'est que devant ce récit du livre des Actes, comme devant d'autres éléments de la révélation biblique, j'ai l'impression de ne pas vraiment mesurer ce qui se passe. J'ai l'impression de voir comme un décalage entre ce que je crois, ce que je sais être vrai, et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je m'attends à ce que ça fasse quelque chose en moi, à ce que ça retentisse. Je m'attends à ça, et puis je me vois chercher un endroit en moi où ça retentit. Et parfois, c'est comme s'il y avait de l'écho, et parfois, c'est comme si l'écho, eh bien, je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Et je me dis, mais est-ce que je réalise ? L'apôtre Pierre, qui était présent au moment de cet événement, méditant quelques années après ce qui s'est passé, dit dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 22, « Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, les anges, les autorités, les puissances célestes lui sont soumis. » Donc Pierre voit là la matérialisation sans doute de ce que Jésus lui-même avait promis à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 18 et suivant, « Tout pouvoir donné, le Père a remis à Jésus les commandes de l'histoire. » Et on entend aussi à travers cela les échos d'un texte encore plus ancien, le psaume 110, qui annonce la même chose. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tout ennemi sous ses pieds. C'est cela aussi, nous dit Pierre, que nous dit l'Ascension. Cette supériorité du Fils manifeste sur toute chose. Et cela, physiquement, laisse les témoins, peut-être, probablement, ébahis. Avec un phénomène inouï, par le truchement d'un phénomène inouï, se dit l'affirmation d'une royauté présente, d'une supériorité présente sur tout pouvoir qui se donne à voir. Et cette supériorité se donne à voir à travers une élévation physique. Il est monté au ciel. Est-ce que je réalise ? Alors pour plusieurs, peut-être ça a l'air assez spontané. En prennent-ils toujours la mesure ? Notre héritage chrétien nous conduit à être tentés de penser, savoir beaucoup, connaître beaucoup, ou tout sur Dieu. Et quand je dis savoir et connaître, c'est pas simplement au sens intellectuel, c'est comme si ça c'était présent en nous, approprié en nous. Et on va dire, de manière presque badine, des choses comme Il n'y a qu'à faire appel à ses promesses pour nous. J'ai parlé avec le Seigneur au petit déjeuner ce matin, entre ma tartine et puis ma banane. Tant et si bien que dans notre discours, dans notre façon de faire appel à Dieu, ça pourrait apparaître un peu comme si Dieu était présent, un peu comme une personne de la maison ordinaire, voire même dans la façon parfois de le décrire comme un peu comme un animal domestique, voire même comme un simple prestataire de service. Même si bien sûr nous nous récrierions à cette suggestion. Bien sûr que non, on ne voit pas Dieu comme ça. Il nous faut peut-être parfois des événements qui sont déroutants dans notre histoire individuelle et dans notre histoire collective pour nous faire toucher du doigt que c'est aussi et encore à quelqu'un qui nous dépasse que nous avons affaire. Et peut-être nous pouvons le toucher du doigt encore à ce moment où nous sommes encore dans le tâtonnement par rapport à la pandémie. Nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Et gardons-nous d'imaginer que nous en saisissons beaucoup. Il est monté au ciel, dit donc Pierre, il siège à la droite de Dieu, les anges, les autorités et les puissances célestes lui sont soumis. J'ai du mal à réaliser. Nous avons du mal à réaliser. Peut-être comme nous avons aussi du mal aussi à réaliser la réalité de la pandémie, voire peut-être à la domestiquer maintenant qu'elle est là depuis quelque temps, et puis que les contraintes semblent se desserrer petit à petit. Tout lui est soumis, lisons-nous, et pourtant, diront les sceptiques, et pourtant, si c'est vrai, eh bien ça se voit pas beaucoup. Et moi aussi, sans être sceptique, je mesure bien que je ne mesure pas. Et je peux comprendre les sceptiques. Et en même temps, j'ai envie de dire, je m'estime heureux, je crois que nous pouvons nous estimer heureux, parce que la Bible atteste aussi que les premiers chrétiens, eux-mêmes, n'étaient pas forcément mieux lotis que nous pour réaliser. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, au verset 8, nous lisons que l'auteur biblique lui-même nous dit que nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Nous ne le voyons pas encore. C'est pas que c'est faux. C'est juste que cela n'est pas apparent à nos yeux comme nous aimerions peut-être que ce soit apparent et que du coup ça nous bouleverse, que ça nous impacte intérieurement. Nous n'avons qu'un aperçu de la gloire qu'il a désormais. Nous n'en avons qu'une idée. Et je crois que ça fait écho avec la suite de cette prière adressée à notre Père qui est dans les cieux. Nous y disons que ta volonté soit faite sur la terre. Elle n'est pas encore faite complètement sur la terre. Il en reste à faire pour qu'elle se réalise pleinement. Chrétiens, nous parlons de Trinité, nous parlons de la rédemption, nous disons des choses de Dieu, et nous pouvons avoir des schémas, des images très précises, des schémas très précis, par exemple, sur le retour de Jésus, dont le texte nous parle aussi, sur la fin des temps. Mais est-ce que nous réalisons? Et d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment possible que nous réalisions de manière pleine, complète? Est-ce que c'est même imaginable? Est-ce qu'entre ce que nous croyons et ce qui nous habite pleinement, est-ce qu'on ne ressent pas parfois que notre foi ou des aspects de notre foi sont comme théoriques, comme distants, que nous avons du mal à réaliser? Est-ce qu'il n'y a pas en chacun de nous des choses de cet ordre? Je vous invite à y réfléchir en tout cas. Je m'en tiendrai ici à ajouter que ce texte des Actes nous ouvre à entendre que c'est par son esprit que Jésus accomplit son œuvre parmi les siens. L'ascension est préliminaire à l'envoi de l'Esprit. L'Esprit donc est annoncé par Jésus juste avant et viendra juste après au chapitre suivant. L'Esprit est à l'œuvre en nous, mais comme l'action du vent, celle de l'Esprit ne se voit pas toujours. Et en tout cas, ce n'est pas nous qui pouvons décider de la façon dont l'Esprit agit. Ce n'est pas nous qui le programmons. Là aussi, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Et l'Esprit n'est pas un jouet entre nos mains, pas un animal domestique, pas un prestataire de service. Il est une personne, mais en même temps, il nous dépasse infiniment. C'est peut-être un gros intérêt d'un texte comme celui-ci, de nous faire mesurer que nous ne mesurons pas, que nous parlons ensemble de réalités que nous ne comprenons pas, et qui même quand nous pensons savoir plein de choses, quand nous pensons pouvoir discourir sur Dieu, comme je le fais en ce moment, même là, ces réalités nous dépassent absolument. Nous les savons vrais, les savoirs vrais ne nous empêchent pas de ne pas forcément y être, si je puis dire, qu'elles ne nous habitent pas autant, avec autant de force que ce que nous pouvons imaginer, pourrions imaginer. Que cela ne nous empêche pas d'y adhérer, d'avoir confiance. Nous ne sommes pas sous le coup du phénomène qui se produit devant nos yeux. Mais même si nous ne réalisons pas, restons confiants à l'égard de cet esprit qui est à l'œuvre en nous, même si ce n'est pas visible, même si ce n'est pas sensible, même si nous ne ressentons pas les choses toujours comme nous aimerions les ressentir. Que cet esprit nourrisse en nous la confiance en l'accomplissement de ses promesses, de sa promesse, et pour en revenir au texte, l'attente de la promesse de son retour.